meilleurs voeux à ceux à qui je n'ai pas souhaité avant. Je suis heureux de me retrouver une fois plus parmi vous. Je transmets les salutations de l'AIDE à travers ceux de Joël Ademan et de Pierre-Lise Dos Santos. Je propose ce matin de voir ensemble une parabole de Jésus. Une grande partie de l'enseignement de Jésus sur le royaume passe par des paraboles. Et d'ailleurs, la plupart même des paraboles concernent justement le royaume en général. Comment entrer dans le royaume? Quelle est sa nature? Comment est-ce qu'il s'y étend dans le monde? Qui est son roi? Ce qui se passera quand il viendra? Une façon un peu imagée, un peu mystérieuse d'enseigner, de pousser la réflexion. Alors, j'ai fait connaissance avec les paraboles lors de mon tout premier camp de jeunes. J'avais environ 18 ans, et c'est à ce moment-là même, suite à ce camp, où je me suis converti, et le thème c'était les paraboles du royaume. Et on avait essayé justement de construire un peu une image du royaume à travers les paraboles. Cette année, dans le groupe de quartier de l'église, on a choisi comme thème les paraboles, et donc je vous propose ce matin de voir la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. On s'est rendu compte dans le quartier que les paraboles n'étaient pas toujours toutes simples à comprendre. Voilà, et celle-là est un peu dans la moyenne, on va dire. Donc, Matthieu 25, à partir du verset 1. Le royaume des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les cinq autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et les autres, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Au premier abord, l'histoire paraît assez simple à comprendre. Et même la leçon, puisqu'elle est donnée en toutes lettres à la fin, il faut veiller. Certains sont prêts, d'autres pas. Mais si on regarde un peu la parabole en détail, on y voit des choses plutôt étranges. Déjà le titre, le royaume des cieux est comme 10 vierges. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume des cieux est comme 10 vierges? Moi j'imagine le royaume des cieux autrement que ça. Et souvent dans les paraboles de Jésus, il y a des choses surprenantes. Si on réfléchit aux paraboles qu'on connaît, on verra peut-être très vite des choses, on se dit c'est vrai que c'est pas facile. La parabole du semeur, il y a peut-être des agriculteurs mennonites ici, mais voilà, est-ce qu'un bon agriculteur va semer sur le chemin, semer dans les ronces, semer dans les cailloux? Assez bizarre quand même, comme paysan. Jésus qui prend l'exemple d'un serviteur qui détourne les fonds, et le met en avant, et même le maître dans la parabole loue le serviteur de ce qu'il a été malhonnête. Donc, quand même, histoire étrange. Des paysans, des notables qui refusent de venir quand le roi les invite à un festin. Est-ce que ça peut paraître crédible? À l'époque, en plus, avec Hérode, avec César, qui va dire à Hérode « Non, je viens pas ». Et puis un roi qui invite après des gens de la rue. Est-ce que c'est crédible? Alors, dans cette parabole, si on regarde attentivement, il y a des choses qui surprennent. Par exemple, si les vierges partagent, elles n'auront plus assez d'huile, mais plus assez pour faire quoi? Et puis surtout, est-ce que des jeunes filles égoïstes qui ne partagent pas avec leurs amis, c'est un beau modèle que Jésus nous présente? Et puis, il dit aux jeunes filles insensées, « Je ne vous connais pas ». Mais est-ce qu'il connaît les autres? Et pourquoi il en connaît certaines et il ne connaît pas d'autres? Elles aussi d'ailleurs raison de lui lorsqu'elles arrivent à la fin. Et pourtant il leur dit, je ne vous connais pas. La conclusion, veillez, Parole de vie dit même « restez éveillés ». Et pourtant, dans la parabole, toutes les 10 jeunes filles dorment. Comme conclusion de parabole où les 10 dorment, la conclusion « restez réveillés » est un peu surprenante. Il y a des choses dans les paraboles qu'on ne comprend pas parce que 2000 ans nous séparent et qu'on n'est pas dans la même culture. Et puis il y a des choses que Jésus rend volontairement surprenantes parce que c'est justement là, sur cet élément, qu'il veut nous amener à réfléchir. Si on reprend la parabole du semeur, aucun paysan normal, je lui ai dit, va jeter du grain sur le chemin, dans les rocailles, dans les ronces. L'élément est surprenant parce qu'il veut évoquer quelque chose. Peut-être la générosité de Dieu qui sème sans compter, ou peut-être pour nous le fait de témoigner sans trier ce que nous pensons être une bonne terre ou ce qu'on pense être une mauvaise terre. En tout cas, ça nous pousse à réfléchir pourquoi ce comportement si étrange chez ce semeur. La parabole des noces du fils du roi, là aussi, on peut être que choqué que certains puissent refuser d'aller à l'invitation. Comment est-ce possible? Et là, Jésus veut aussi faire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans notre parabole, il faut trier entre ce que Jésus dit de façon intentionnellement surprenante et ce qu'on a du mal à comprendre à cause des 2000 ans qui nous séparent. Et je propose de survoler un peu comme ça les éléments, voir comment les comprendre et puis après voir ce que la parabole a à nous dire aujourd'hui. Alors déjà le titre, je l'ai dit avant, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient une lampe. Sans doute que la meilleure façon de traduire ça serait de dire « Je vais vous parler du royaume de Dieu, il était une fois. » Je ne pense pas que le royaume c'est 10 vierges, je ne pense pas que le royaume c'est ceci, etc. Je pense, voilà, je vais vous parler du royaume, il était une fois 10 vierges. Qui sont ces 10 jeunes filles? Ah, pendant longtemps, moi j'ai cru que l'époux était quelque part polygame et qu'il y avait 10 jeunes filles maintenant, 10 vierges, avec qui il allait se marier et qu'en fin, il n'en prenait que 5. D'ailleurs, dans un groupe de maison, lorsqu'on a fait l'étude, j'ai remarqué que, alors qu'on était tous là d'âge mûr, ben, les gens comprenaient encore ça plus ou moins comme ça. Alors certains disent qu'en fait, ces 10 vierges, ça symbolise les épouses du Christ, mais jamais dans la Bible on présente les chrétiens comme des épouses du Christ, comme les membres de l'épouse, et l'épouse c'est l'Église, mais Christ n'a bien qu'une seule épouse, et dans ce texte, Christ ne promeut pas la polygamie. Ceux qui ont étudié un peu le contexte de l'époque nous disent que c'était plutôt un peu comme des demoiselles d'honneur ou des jeunes filles du village qui voulaient accompagner le cortège. On y reviendra juste après. Où est-ce qu'elles sont ces jeunes femmes? Elles ne sont pas perdues quelque part dans la campagne, elles sont sans doute dans le village, peut-être même avec la mariée, à attendre que le marié arrive. Une partie est sage, une partie est folle, sage ou insensé. Est-ce que ça fait penser à une autre histoire de Jésus, sage et folle? Ouais, si on prend masculin, c'est plus simple, hein. Sage et fou, hein, c'est la parabole donc, du fou qui construit sur le sable et du sage qui construit sur le roc. Donc là, à nouveau, Jésus compare deux manières de construire sa vie, une manière sensée et une qui amène à des difficultés ou à la catastrophe. Il y a l'huile dans ce texte. Qu'est-ce que symbolise l'huile? On parle souvent d'huile pour le Saint-Esprit. C'est peut-être le fait d'avoir ou non le Saint-Esprit. Certains pensent que c'est peut-être les œuvres bonnes que les uns et l'autre ont pu faire. Peut-être que ça ressemble un peu au talent aussi, qu'on doit fructifier ou pas. Voilà, certains ont le talent à ramener, l'huile à ramener, etc. D'autres n'ont pas fait fructifier le talent. On ne sait pas trop, on imagine, hein, là Jésus ne donne pas l'explication, on ne peut que réfléchir. C'est vrai que si c'est le Saint-Esprit, bah, ça ne se partage effectivement pas. Si c'est cette huile, c'est le Saint-Esprit, on ne peut pas dire bah, « je te donne un bout de mon Saint-Esprit ». Si c'est les œuvres bonnes, bon, bah, ça veut peut-être dire que voilà, certains n'ont pas, s'imaginent être pieux, mais n'ont jamais vraiment reçu le pardon. Refuser le partage de l'huile. Alors certains pensent que c'était de l'huile pour allumer ses lampes, que ce soit voilà, des petites lampes à huile. D'autres pensent que c'était des torches qu'on allumait pour brûler et accompagner la route pour le marié. Donc, partager, c'était forcément tomber en panne en cours de route. Il fallait accompagner le marié du moment où il arrivait jusqu'à la salle de noces. Si on partage l'huile, et ben, faire une moitié dans la lumière et la fin du chemin dans les ténèbres, ça n'a pas beaucoup de sens. Vaut mieux effectivement que certaines éclairent tout le chemin plutôt que de faire partie dans le noir. Le sommeil, je l'ai dit, elles dorment toutes dans l'histoire. Apparemment, ce n'est pas un problème que le fait qu'elles dorment. Et pour moi, ce que ça symbolise, ce moment où elles dorment, c'est nos vies. C'est les choses qui suivent naturellement le cours. On continue à vivre dans l'attente que le Seigneur revienne. On vit tranquillement. Mais certains sont prêts et peuvent vivre tranquillement. Et d'autres, apparemment, le sont pas. Je garde le rythme de ma vie avec mes temps d'occupation, mes temps de repos, mais j'oublie pas de m'apprêter, de vérifier que je suis prêt. Si ma préparation s'émousse, je me remets à niveau. Pour moi, c'est un peu comme ceux qui veulent faire des exploits sportifs ou lorsqu'on veut lancer une navette spatiale. Parfois, à cause des circonstances climatiques, le départ est reporté jusqu'à ce que les circonstances soient favorables. Mais le skipper du bateau ou l'équipe du centre spatial ne se dit pas « Bon, appelez-moi quand tout sera prêt » et puis repart faire autre chose. Il sait que la course n'a pas recommencé, il sait qu'il est prêt et malgré tout, il reste sans cesse à faire des vérifications. Lorsqu'on voit ceux qui veulent battre le tour du monde à la voile, s'ils ne partent pas le jour même, ils restent tout le temps préoccupés à tout vérifier, à tout sans relâche. Voilà, continuer à surveiller. Peut-être la nourriture périmée, les cordages, rester fixé sur l'enjeu, ne pas se relâcher. C'est ça que j'entends par être prêt, continuer à s'apprêter. C'est ce que Jésus appelle « veillez, soyez sur vos gardes ». Si dans l'attente, des choses ont bougé, si dans l'attente, l'huile a diminué, il est trop tard à un moment donné, lorsque le départ est donné, pour refaire les réglages. Le problème avec les jeunes filles insensées, ce n'est pas qu'elles sont prises au dépourvu. Ce n'est pas qu'elles n'avaient pas prévu qu'il faisait la nuit. On pourrait en avoir l'impression, puisqu'il dit que l'époux tarde à venir. Mais elles avaient amené les torches, donc elles savaient que ça allait se passer de nuit. Elles savaient qu'elles auraient à utiliser ces torches. Et d'ailleurs, il n'est même pas forcément si tard lorsque l'époux arrive, puisque la supérette du coin est encore ouverte et qu'elles peuvent aller acheter de l'huile. Où est l'époux dans l'histoire? Le texte ne dit pas, mais pareil, ceux qui ont réfléchi à comment se pratiquaient les mariages à l'époque disent qu'il était sans doute dans la belle famille en train de renégocier une dernière fois symboliquement la dot. Et plus la négociation durait, plus ça montrait l'attachement des parents à leur fille, j'ai pas envie de la laisser partir, et plus ça montrait l'attachement de l'époux à sa future épouse, j'ai vraiment envie de la voir, donc faire durer la négociation, c'était plus un symbole d'attachement à la personne que des questions vraiment financières. C'est une façon symbolique de mettre l'épouse en valeur. Ou peut-être qu'il attend simplement que tout soit prêt. Moi, j'ai vécu en qualité de pasteur à Montpellier des mariages congolais, et un était une fois annoncé à 19h, il a commencé à 23h. C'était à 23 décembre en plus. Mais on a découvert par la suite que les mariés étaient là. Ils étaient garés dans une voiture à 2 minutes de la salle des fêtes. Alors jusqu'à 23h, je pense qu'il y avait une voiture allumée. Mais tout n'était pas prêt dans la salle, où des gens traînaient encore. Chez les Congolais, on n'est pas toujours bien, c'est pas des Suisses. Et donc, ça aurait été pour eux irrespectueux d'eux-mêmes de venir dans la salle alors que tout n'était pas prêt. Donc ils attendaient et quelqu'un leur a dit « Maintenant, tout le monde est arrivé, les invités sont là, vous pouvez venir. » Donc peut-être que là, le marié attendait aussi que tout soit prêt avant d'arriver pour que justement les gens l'accueillent. Pourquoi est-ce que l'époux ne reconnaît pas les jeunes filles folles? Là encore, on n'est pas en Occident où chacun a reçu un petit carton mariage avec juste vin d'honneur ou mariage et le repas, etc. Lorsque j'étais coopérant en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait un mariage, tous ceux qui couraient assez vite, et les enfants en particulier, faisaient partie de la fête. Et là, il n'y avait même aucune porte qu'on pouvait fermer comme dans la parabole. On passait par là, on pouvait faire partie de la fête. Moi, j'ai été à des mariages où j'ai jamais été invité, des gens que je connaissais. Parce que ça, on n'invitait pas forcément. On savait qu'il y avait un mariage, c'était annoncé, ceux qui avaient envie d'y aller, on allait, on mangeait. Et donc, dans le mariage qui se prépare dans la parabole, la plupart des gens sont inconnus des mariés. À l'époque de Jésus, on laissait entrer les gens qui se joignaient au cortège, plus ou moins invités, s'ils jouaient leur rôle, faire la fête, faire le cortège autour du marié. Mais une fois que la fête est commencée, c'est pas très respectueux d'arriver et d'essayer de rentrer quand même. Et peut-être même à l'époque dangereux, on sait qu'on fermait les portes des salles, on fermait les portes même de la ville. Donc voilà. Et les jeunes filles insensées n'ont pas participé à créer le cortège festif. Donc c'est peut-être effectivement des filles du village, mais comme les cinq autres, que le marié ne connaît pas du tout. Il laisse rentrer les cinq autres parce qu'elles ont fait le cortège, il ne laisse pas rentrer celles-là parce qu'elles n'ont pas été de la fête, etc. Et l'huile ne leur sert plus à rien maintenant. Et surtout, une fois à nu tombé, on ne sait pas vraiment ce qui est derrière cette porte. « Je ne vous connais pas » fait penser à deux autres passages qui peuvent éclairer aussi un peu le sens de « Je ne vous connais pas ». En Matthieu, chapitre 7, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Donc deux idées dans ce verset, ceux qui font la volonté du Père, et éloignez-vous, vous qui faites le mal. Luc 13, quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y aura-t-il que de peu de gens sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ça ressemble à une parabole, hein. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Nous avons bu et mangé avec toi, tu nous as enseigné dans les rues » Il répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Donc faire la volonté de Dieu, ne pas faire le mal, et ici, ceux qui sont refusés, c'est ceux qui commettent l'injustice. Et ils se retrouvent au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, une fois qu'on a compris un peu ce contexte de la parabole, qu'on a compris que ce n'était pas les 10 futures épouses du marié, mais que c'était des filles qui allaient courir avec eux pour rentrer dans la salle, et que si on n'était pas du lot, eh ben on ne rentrait pas pour faire la fête, on comprend mieux un peu ce qui se passe et pourquoi il dit « je ne vous connais pas », etc. Et donc, il reste une chose qui surprend, je l'ai dit au début, hein, Jésus voulait toujours surprendre dans les paraboles, une chose surprend, pourquoi cinq de ses filles n'ont pas amené d'huile. Le problème de ces filles insensées, c'est qu'elles sont insouciantes. Elles ne se préoccupent pas de se préparer correctement. On verra bien, d'une façon ou d'une autre, ça s'arrange bien. Puis de toute façon, ces histoires d'huile, on en fait tout un plat dans les prédications, mais voilà, c'est plutôt les pasteurs qui mettent l'accent. Moi, je sais qu'avec ma torche, je suis bien. Le problème des jeunes filles insensées, c'est effectivement qu'elles sont insensées. Comme il faut être insensé, nous dit Jésus, pour construire une maison sur du sable. Comme il faut être insensé, nous dit Jésus, pour construire une maison sans avoir réfléchi avant si on a les moyens de la construire. Comme il faut être insensé, nous dit Jésus, pour un roi, pour partir en guerre sans avoir d'abord fait un calcul du rapport de force avec l'ennemi. Elles sont d'une imprévoyance irresponsable. Elles savaient depuis longtemps qu'elles voulaient participer au cortège et aux noces. Vu de l'extérieur, il n'y a aucune explication à leur attitude. Il n'y a que elles qui ne voient pas où il y a le problème. Elles sont insensées. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. À plusieurs reprises, notamment dans les paraboles qui entourent la nôtre, en Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus lance cet avertissement « Veillez donc ». Le serviteur qui ne voit pas le maître revenir, qui se laisse aller, qui commence à battre les autres serviteurs, suis-je prêt? Est-ce qu'avec le temps je me suis laissé aller? Est-ce que j'ai fait des compromis dans ma foi, dans mes valeurs? On l'a dit dans les différents exemples, construire sa vie sur Jésus, hein, sur sa parole, comme le sage construit sur le roc, faire la volonté de Dieu, agir de manière juste envers les autres. Beaucoup de pistes qui aideront à réfléchir à chacun de ce que ça signifie être prêt pour lui aujourd'hui. Et surtout, dans quel sens il pourrait ne pas être prêt. Mais dans plusieurs des textes cités, c'est bien le comportement qui est en cause. Commettre l'injustice, faire le mal, être abusif à l'égard des autres. Les contemporains de Jésus disaient « Nous sommes fils d'Abraham » et ça leur suffisait pour se sentir prêts. Ils étaient circoncis, ils avaient le bon tampon. Peut-être que nous dirions « Je me suis avancé lors d'une campagne de Billy Graham. » Tout le monde connaît encore Billy Graham, ça va dire ? Ok. « Je me suis avancé lors d'une campagne de Billy Graham. J'ai donné ma vie au Seigneur pendant un camp. » J'ai rien à craindre. Peut-être que certains se disent juste, bah oui, moi je suis bien dans cette église, j'aime bien ses valeurs, donc ça me semble suffisant. Je suis bien ici. Et peut-être que je n'ai pas compris que Dieu attend de moi un pas peut-être décisif pour venir vers lui. Une réponse à son appel, à recevoir son pardon. Ou alors peut-être que je n'ai pas développé les fruits de l'esprit dans ma vie. Et Jésus le dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Est-ce que ma vie reflète les valeurs du royaume ? Est-ce que ma vie est tournée vers ce royaume vers lequel j'ai envie d'aller ? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je m'accroche à une torche alors qu'il me manque l'huile ? La torche, c'est l'illusion. J'ai un jour levé la main, mais ça n'a jamais rien changé dans ma vie. Ou je suis bien dans l'église, mais ça n'a jamais rien changé dans ma vie. L'huile, c'est peut-être la chose que Dieu attend de nous pour être sûr qu'effectivement, je suis prêt. Et on peut prendre peut-être juste quelques instants de silence et se dire, je conclurai encore après, en quoi est-ce que peut-être aujourd'hui je suis insensé ? Première chose qui me vient à l'esprit, c'est vrai que dans cette façon pour moi de vivre, je suis insensé. Comme le dit l'apôtre Paul dans le passage où il parle de la Sainte Cène en Corinthiens 11, il dit « Que chacun s'examine donc lui-même et qu'alors il prenne le pain et boive la coupe. » Paul encourage à s'examiner, mais sa conclusion n'est pas « Et si vous n'êtes pas en règle, laissez passer le pain et la coupe. » L'avertissement de Paul n'est pas là pour interdire à certains de prendre le repas. Il dit « Que chacun s'examine donc lui-même et qu'alors il prenne le pain et boive la coupe. » L'avertissement est là pour qu'on profite de ce moment pour se mettre en règle avec Dieu et qu'après on puisse communier avec joie. De même, les paroles de Jésus ne sont pas là pour condamner, juger. Elles sont là pour dire, tant que le cri n'a pas retenti, voilà le marié, venez à sa rencontre. Il y a tout le temps qu'il faut pour aller vous procurer de l'huile. Et il nous invite à le faire pour qu'il ait la joie de nous accueillir lorsqu'il reviendra. Jésus ne condamne pas, ne juge pas, mais il avertit que ce jugement existe bel et bien. Et lorsqu'il viendra, là, les portes se fermeront, et là après il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc profitons, tant que l'on peut dire aujourd'hui, comme dit l'Épître aux Hébreux, pour se mettre en règle. C'est à un repas de noces que nous sommes conviés, c'est à un temps de joie que Dieu veut nous associer. Il veut que nous soyons dans le cortège des noces, que nous soyons à sa table, à table des invités lors des noces de l'agneau. Et il ne veut pas que des choix insensés de notre part nous compliquent la vie à ce sujet ou compromettent notre participation. Amen.